n'importe qui dans la population peut appeler, par exemple, en disant « Ah, j'ai entendu parler de ça, l'idée d'une cuisine collective, je trouve ça intéressant, comment on fait pour démarrer ça? » Ce qu'on va proposer aux gens à ce moment-là, c'est de s'inscrire dans une formation qui est à la fois traditionnelle, théorique, entre guillemets, où on explique un peu l'origine des cuisines, comment ça fonctionne et tout, puis il y a une mise en exercice, c'est-à-dire que les 6, 8 ou 10 personnes inscrites dans la formation vont faire une cuisine collective. Parce que ça a l'air de rien, ça a l'air bébête un peu de dire « OK, on se met, mais on n'est pas des amis, on n'est pas des personnes qui se connaissent, on peut avoir des goûts très différents, il peut avoir des allergies, il peut avoir des goûts, des habitudes qui sont liées des fois à la culture, des fois aux habitudes familiales, il y a des gens qui n'ont pas le même budget. » C'est un exercice d'apprentissage, de négociation, d'échange qui est beaucoup plus stimulant mais complexe aussi. C'est pas simple là, de faire partie, c'est pas simpliste, je dirais. Souvent, il y a une animatrice ou un animateur qui va aider un peu à faire justement soutenir ces discussions, ces échanges-là, pour que tout le monde y trouve son compte, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent la vaisselle, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui décident des recettes, etc. C'est vraiment un processus démocratique, d'apprentissage de la démocratie aussi, du choix commun, de respecter les points de vue de tout le monde, mais d'arriver à des solutions qui vont être satisfaisantes aussi pour tout le monde. Puis c'est un processus d'éducation populaire, au sens où on apprend ensemble. Quand on devient membre du regroupement des cuisines collectives, on adhère à des valeurs, on choisit de dire, par exemple, pour nous, la solidarité, c'est important. Pour nous, la justice puis l'équité, c'est important. Pour nous, le respect des personnes, c'est important. Et ça se traduit de ces façons-ci. C'est pas juste du vocabulaire là, ou des mots en l'air, c'est si on parle de solidarité, ça veut dire quoi dans un groupe de cuisine quand on a des inégalités entre nous, par exemple? Ou quand, pour une raison X, il y en a une qui ne peut pas venir cuisiner cette semaine parce que ses enfants sont malades, comment on va traduire la solidarité dans ce cas-là? Ça peut avoir l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas toujours. Il faut réfléchir, il faut voir. Alors, ces valeurs-là, elles s'appliquent dans la gestion au quotidien, dans notre fonctionnement au quotidien, puis dans le fonctionnement de l'organisation aussi.
Cuisine collective de Bouffe Action Rosemont, au centre communautaire Gabriel et Marcel Lapalme. C'est une cuisine collective pour personnes à mobilité réduite. C'est Xavier qui a parti le projet, qui en a parlé à l'association Alpar, qui est une association pour les personnes à mobilité réduite. Alors, c'est évident qu'il est venu frapper à la bonne porte.
Voilà ce qu'on va faire aussi, pas tout de suite, mais un peu plus tard, on ramasse les factures, les achats qui est fait chacun, on les additionne et on les divise par le nombre de participants. Et quand tout ça va être prêt, c'est la même chose. Chacun y amène ses propos et on partage la part égale. Tout le monde y part avec la même quantité. Je dirais que la moyenne de prix de cuisine, c'est entre 18 à 25 dollars maximum, mais il part à peu près entre 25 à 35 portions déjà, prêts à congeler. Ça veut dire que ça fait vraiment ça fait de portions à moins d'un dollar. Et là, si tu l'as vu, je veux dire, on a de poulet, on a de rôti de palette, on a de potage. Non, il y a des économies réelles aussi.
Le service des cuisines collectives là, pour personnes en perte d'autonomie, ça fait 3 ans. Je suis ici pas mal depuis le début. Et puis quand je suis arrivée ici, je ne cuisinais pas. Je m'intéressais pas beaucoup à l'alimentation, la nutrition. Ici, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a toutes des limites physiques. Et puis, on ne garde pas les limites de l'autre. Chacun va à son rythme. Chacun est bien. Pour moi, ça a été une découverte là, de mes possibilités. Puis des groupes comme ici, ça nous donne la chance de partager. C'est de voir qu'il y a d'autres choses qui existent que notre personne. Tu sais.
Je pense
aussi
que le fait d'être... Le fait de vivre la cuisine communautaire ben, avec dans un environnement sécuritaire, adapté, avec Xavier qui nous aide, avec Gaëtan qui est du CLSC, qui a plein de trucs. Après, quand on arrive chez nous, oui, on a des adaptations dans notre domicile, là, chacun c'est différent, mais c'est jamais adapté à 100%, sauf que ça nous rend moins craintifs de... essayer de faire quelque chose de... La cuisinière, elle ne mangera pas, là. Le four, il ne mangera pas.
Mais je trouve ça super, de qu'est-ce qu'ils font, là. Je leur lève le chapeau parce que c'est beaucoup de travail, puis surtout d'être capable de communiquer entre eux autres sans... qu'il arrive quoi que ce soit aussi, que des mésententes, quoi que ce soit, non, c'est le contraire. Ils vont discuter, puis on va parler, ils vont parler des choses réelles et tout. C'est vraiment une équipe, là, un travail d'équipe qu'il y a ici.
Oui. À la base, c'était une façon de se dépanner, de s'entraider, mais ça... Ça va beaucoup plus loin que ça dans les apprentissages puis dans les réflexions philosophiques et politiques qu'on fait. Politique au sens d'une réflexion sur les gens, les enjeux de société là-dessus. Là. Alors, on est préoccupé par le droit à l'alimentation puis par les différentes... la salubrité, par exemple, puis l'inocuité, comment tous les produits qu'on booste de produits chimiques ou d'additifs ou de conservatifs en tout genre... On a déjà pris des positions puis dénoncé des choses là-dedans, puis on le fait régulièrement sur l'accessibilité géographique aux aliments. Il y a des quartiers dans Montréal où c'est super difficile de trouver des fruits et légumes frais. En région, ça peut être pareil. Là, hier, il y avait un producteur qui nous racontait qu'il vit dans une région vraiment qui produit toutes les asperges du Québec et que dans le coin, il n'y a que 3 dépanneurs où tu ne peux jamais trouver une asperge. Tu ne peux pas aller acheter chez les producteurs non plus parce qu'ils vendent toute leur récolte à Métro ou à l'Oblast ou je ne sais pas quoi. Alors, ces problèmes-là d'accessibilité puis de répartition des produits de base, ça nous questionne. Le coût des aliments a augmenté de 23 % depuis 2008, ce qui est phénoménal, ce qui est moins pire que dans certains pays du Sud où là, carrément, le prix des aliments de base bat des records de... par exemple, au niveau de l'augmentation, etc. Mais quand même, c'est énorme. Le prix, les gens sont très conscients qu'aller à l'épicerie maintenant, c'est de plus en plus une entreprise périlleuse, c'est de plus en plus long. Hier, on se disait, justement, j'étais à une rencontre de concertation, on se disait comment, des fois, ça peut tout nous arriver que d'être dans une file à l'épicerie puis que quelqu'un, au moment où la caissière dit le montant des achats, va dire, ben oups, non, vous allez remettre ça, vous allez enlever ça de mon panier parce qu'il n'y avait pas prévu la somme... compte tenu de l'augmentation des prix, par exemple. Il y a une augmentation des prix. On a très peu de contrôle adéquat sur la qualité des aliments. Il y a différents enjeux comme ça de protection, de sécurité, d'information, la publicité sur la malbouffe, le manque de transparence dans, par exemple, impossible de savoir quels produits contiennent des OGM au Québec encore. Il n'y a pas d'étiquetage là-dessus. Bon, il y a beaucoup de situations problématiques. Actuellement, l'agriculture est beaucoup financée au rendement uniquement, sans tenir compte de l'éco-rendement, dans le fond, de comment le rendement à moyen puis long terme va être affecté par ça. Bon, la situation n'est pas très rose, tout le contrôle, le monopole, par exemple, du syndicat, de l'UPA, par exemple, sur les agriculteurs, avec toutes les difficultés que ça peut être parfois de représenter des tendances différentes. Il y a beaucoup d'aliments gaspillés aussi, ça c'est un autre... Il y a du gaspillage individuel, là. On jette des aliments, c'est sûr, mais le gaspillage institutionnel, là, que ce soit dans les hôtels, par exemple, ou dans les hôpitaux, etc., à la base, là, ce gaspillage-là ne devrait pas avoir lieu. Disons que si on était mieux équipé et mieux conscientisé par rapport à ça, les entreprises pourraient récupérer. Il y a des cuisines collectives, par exemple, entre autres dans la Montérégie, qui ont une entente de service avec un foyer de personnes âgées. Le foyer va servir, mettons, un repas où il y a des légumes, etc. Et ce qui reste, eux vont aller le récupérer, puis ils vont l'utiliser pour faire une soupe, un potage, qu'ils vont après congeler, puis pouvoir utiliser dans leur cuisine. Ces restes-là de nourriture, qui étaient encore bons, mais qui ne voulaient pas servir deux, trois fois aux mêmes personnes, vont être utilisés par une autre organisation. Mais ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place et qui facilitent, c'est ça, non seulement des économies, mais moins de gaspillage. C'est un peu gênant de penser qu'il y a du monde qui ont faim, puis alors qu'on jette des tonnes de nourriture à chaque année, là. Soit pour maintenir des prix, soit pour les grands buffets de grands hôtels, par exemple, où on doit avoir une apparence X, quand, c'est ça, il y a l'image de ce qui doit être sur la table de buffet, puis pour garder cette image-là, ben, on va jeter beaucoup de choses, par exemple.